Laurence Omettre, qui elle est psychologue au programme des maladies neuromusculaires du Centre de réadaptation Marie-Enfant. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous êtes là parce qu'on cherchait à mieux comprendre et surtout peut-être un peu à aider là, ceux qui sont impliqués dans le processus d'acceptation du handicap pour leurs enfants qui naissent avec un handicap ou peut-être qui ont été diagnostiqués en bas âge. Évidemment qu'on peut présumer que lorsqu'on apprend cette nouvelle-là, il y a un deuil à faire, il y a un choc, mais il y a peut-être aussi un sentiment de culpabilité.
Oui, effectivement, je vous dirais, c'est certain que de recevoir un diagnostic de handicap ou de maladie pour son jeune enfant, c'est un choc pour les parents. Vous avez parlé aussi de deuil et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui parlent de deuil. Pourquoi? Parce que pour tous les parents, quand on s'apprête à accueillir un enfant dans notre vie, on va essayer de s'imaginer comment va être notre enfant, comment va être notre vie avec cet enfant-là. Et en général, c'est une vision qui est un peu idéalisée où on s'imagine tout ce qui pourrait arriver de mieux possible. Et cette vision-là, elle n'inclut pas des problèmes de santé pour notre enfant. Alors, on a le choc, on a le clash entre cette vision-là idéalisée et la réalité de notre enfant. Et ce clash-là, il est encore plus grand que pour les parents dont les enfants n'ont pas de problèmes de santé.
Et la
Pourquoi est-ce qu'on...
culpabilité arrive à quel moment pour ceux et celles qui l'éprouvent?
Je vous dirais, de la culpabilité, il peut y en avoir, mais pas dans tous les cas. Ça
OK.
dépend toujours de comment les parents vont s'imaginer que, comment ils vont percevoir l'arrivée du handicap dans leur vie. Il y a toujours plusieurs façons de le voir. Par exemple, on a des parents qui ont une grande spiritualité qui vont nous dire « Dieu m'a envoyé cet enfant parce qu'il savait que j'allais l'aimer assez, peu importe comment il était. » Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement une culpabilité d'avoir un enfant qui vit avec un handicap. Mais pour d'autres parents, surtout lorsque le handicap est dû à une condition qui est génétique, bien là, il peut y avoir le sentiment d'avoir transmis la maladie ou le handicap à son enfant. Et c'est là que les parents peuvent vivre beaucoup de culpabilité. Ça peut être de la culpabilité de l'avoir donné, de la culpabilité de ne pas avoir réalisé plus tôt que l'enfant avait des difficultés. Mais dans ces cas-là, je vous dirais que notre approche avec les parents, c'est d'essayer de leur rappeler qu'avoir un enfant, on n'a jamais de garantie qu'il va naître en santé. C'est toujours comme faire un lancer de dés, comme dit
D'ailleurs,
un neurologue dans notre équipe.
c'était justement la question suivante que j'avais sur mon papier, à savoir, puis vous en avez fait allusion, comment se fait-il qu'on prévoit presque toujours l'enfant idéal, alors que, bon, j'en parlais justement à une personne qui a un handicap samedi soir, puis je lui disais, pourquoi toi, tu n'aurais pas le... Pourquoi c'est injuste? Pourquoi ce serait toi qui aurais une vie sans handicap et que tous les autres ici n'auraient pas cette... Appelons ça cette chance-là, là. Mais comment se fait-il qu'on pense toujours que l'enfant va être super athlétique, mignon,
Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est peut-être difficile à répondre, mais je peux vous dire en tout cas que c'est un processus naturel, effectivement, que la quasi-totalité des parents vivent. Peut-être que c'est pour être dans de bonnes dispositions pour l'arrivée de l'enfant, l'accueillir, puis faire tout son possible comme parent, être très, très à l'attention, protecteur, donner beaucoup d'amour parce qu'on s'attend à de belles choses qui vont arriver. Peut-être que c'est un processus naturel qu'on fait les humains pour se mettre comme dans les bonnes conditions pour être le meilleur parent possible.
Mais est-ce que ce serait utile
Je pense.
d'envisager que notre fœtus puisse avoir une anomalie ou c'est juste, bon, il y en a qui diraient, ben non, ça enlève de la, ça envoie des mauvaises vibrations et blablabla, mais est-ce que ça peut être utile justement pour un futur parent?
C'est une bonne question. Je vous dirais que ça va être très variable d'un parent à l'autre parce que il y en a qui vont avoir cette vision-là idéalisée, mais qui vont quand même s'adapter très rapidement s'ils se rendent compte que leur enfant ne correspond pas à cette vision-là idéalisée. Et il y en a d'autres qui auront eu une vision idéalisée similaire, mais leur ajustement à eux, il est un peu plus lent à se faire, puis ils vont continuer à se mettre de la pression comme parents ou à mettre de la pression à l'enfant pour correspondre à ça. Alors ça, c'est très variable d'un parent à l'autre, mais est-ce que ça pourrait ouvrir un petit peu les esprits, puis rendre moins, comment dire, rendre un petit peu plus souple que de savoir qu'il y a différentes possibilités? Peut-être, mais je pense que c'est difficile de trouver une réponse unique pour tous les parents, étant donné la personnalité de chacun.
Mais en tout cas, dans les cours d'allaitement, il me semble que ce serait utile parce que c'est probablement à peu près le seul endroit où tous les futurs parents vont aller, que ce soit allaitement ou respiration ou prénataux, là, ça peut être le fun que, quelque part, on propose cette éventualité-là aux parents. Florence, il y a des deuils, il y a de la culpabilité là, qui peut aller au-delà de l'enfant qui a 3-4 ans. Là. J'ai l'impression, moi, qu'il y a des enfants qui peuvent avoir 40 ans, 50 ans, et les proches se disent toujours... C'est plate parce qu'il ou elle ne peut pas profiter de la vie comme moi, je peux en profiter. Comment on règle ça?
Comment on règle ça? C'est difficile, je pense, à régler complètement.
Ben, il vous reste 4 minutes.
Oui. Parce que quand on éprouve de l'amour, de l'affection pour quelqu'un dans notre entourage, on lui fait toujours le mieux, puis il peut rester ce petit sentiment-là de culpabilité. Mais je pense que d'être capable de se concentrer sur les forces de cette personne-là, malgré son handicap, être capable de voir tous les petits moments au quotidien qui sont quand même agréables, heureux, qui permettent à cette personne-là de profiter de la vie, même si c'est pas toujours de la même manière que quelqu'un sans handicap. Ce sont des bonnes manières de pas rester trop sur le sentiment de culpabilité, puis d'être capable de revivre dans le présent plutôt que dans un futur potentiel qui n'existera jamais de toute manière. Mmh.
Peut-être que, surtout au départ, il est utile pour des parents de partager avec d'autres parents qui ont vécu ou qui vivent la même situation. Mais en même temps, est-ce qu'il existe des pièges à cette stratégie-là?
Je pense que c'est bien que vous apportiez cette nuance-là parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose de très nourrissant pour les parents de parler avec d'autres parents qui ont une expérience similaire, de pouvoir partager, de se sentir compris aussi. Mais c'est certain que je pense que des parents qui ne se sentent pas encore prêts à partager leur histoire ou à écouter celle d'une autre famille ne doivent pas se précipiter vers cette voie-là tout de suite juste parce que on leur a dit que ça pouvait être quelque chose d'aidant. Il faut être sûr qu'on est prêt à parler de ce qu'on vit. Il faut être sûr aussi qu'on est prêt à entendre ce qu'une autre famille vit et peut-être à servir de soutien émotionnel à cette autre famille-là. Parce que quand on rencontre d'autres parents, c'est du donnant-donnant. C'est pas juste nous qui allons recevoir du soutien, c'est l'autre famille qui nous rencontre peut en avoir besoin aussi.
Ouais.
Mais si des parents se sentent prêts à ça et que ça ne leur pèse pas trop lourd, cette idée-là, alors ça peut être une très bonne voie. Mais s'ils se sentent pas capables d'être ce soutien-là, qu'ils disent « moi, pour l'instant, j'ai encore besoin d'être entouré par les autres, je me sens pas assez fort pour le faire », pour une autre famille, peut-être qu'il faut attendre d'être rendu plus loin dans son processus d'adaptation.
On dit souvent que le taux de séparation est élevé dans le cas de famille avec un enfant avec des défis particuliers. Est-ce que ce sont des familles qui, de toute façon, se sépareraient éventuellement ou vraiment ceci expliquerait cela?
C'est une bonne question, ça aussi. Ce que je vous dirais, c'est que effectivement, il y a probablement une proportion de ces couples-là, qu'il y ait eu un handicap ou pas chez leur enfant, qui en serait peut-être venu à se séparer. Toutefois, je ne doute pas que la pression est plus grande sur les couples d'un enfant qui est malade ou qui a un handicap comparé aux couples dont les enfants sont tous en bonne santé physique.
Ouais.
Pourquoi? Ben, parce que, premièrement, le contraste entre la vision un peu idéale qu'il se faisait de l'enfant et la réalité, elle est plus grande que pour les parents d'enfants sans problème de santé. Ensuite, il y a énormément de démarches et de rendez-vous médicaux qui sont associés au fait que l'enfant a un handicap. Mm-hmm. Et ça peut mettre une grosse pression sur l'horaire des parents, sur la conciliation travail-famille, sur la possibilité de trouver du temps pour être entre eux, d'être un couple amoureux et pas juste un couple de parents.
Oui, et trouver du temps, mais également, une fois qu'on prend ce temps-là, d'être disponible à l'autre. Parce que c'est facile d'aller souper ensemble, mais de se demander, bon, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à la maison.
C'est ça.
Florence, c'est ça, j'espère qu'on va se reparler. Je vous ai trouvé fort pertinente, bonne vulgarisatrice et quand même assez brève dans vos explications.
Je vous remercie.
Ce qui n'est pas donné à toutes les...
J'aimerais peut-être simplement remercier ma collègue travailleuse sociale Anne-Sophie Saint-Pierre-Clément qui m'a aidé à réfléchir sur la situation pour pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous.
Mais merci Anne-Sophie. Florence Aumettre, qui est psychologue donc au programme des maladies neuromusculaires du Centre de réadaptation Marie-Enfant. Jean-Sébastien Laliberté, merci beaucoup. Et je remercie également Christiane Campagna. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi.